et qui maintenant ambitionne toujours de doter Loire d'une personnalité juridique.
Ça ouvre tout un tas de portes et il y en a notamment une, je voudrais passer par le droit du travail. Puisqu'on veut se la jouer capitaliste et ethnocentré, ce qu'on appelle la nature ou le vivant travaille pour l'humain. Tout travail mérite salaire. Est-ce que ça pourrait ouvrir une porte aussi du droit du travail, notamment pour Loire, qui après tout nous permet de survivre, hein, puisque... On ne peut pas vivre plus de 3 jours sans boire, sur côté de tous les autres usages qu'on a de Loire pour l'industrie, pour nos maisons, pour faire la vaisselle. Et puis la préservation des milieux sans lesquels on ne peut pas vivre et dont on est un élément, hein, même si on se pense, nous les sapiens, plus intelligents que le reste du vivant. Et donc, ma foi, pourquoi pas rétribuer et salarier Loire, ce qui lui permettrait peut-être de financer des avocats, se racheter des espaces naturels, se refaire des beautés. Est-ce que ce serait incongru finalement de finir aussi par imaginer que tout travail méritant salaire, Loire pourrait être rétribué. C'est chelou, hein ?
Mais pas tant que ça, puisque c'est précisément l'idée, le projet porté par Camille de Toledo, avec son projet Vers une internationale des rivières et autres éléments naturels, un projet coporté par l'Institut d'études avancées de Nantes et le lieu unique, coordonné par Camille de Toledo, donc, qui a une résidence à l'IEA de Nantes. Et donc ce qu'il imagine, c'est de rétribuer les entités naturelles pour les services qu'elles fournissent aux humains, à nos sociétés. Tu citais l'exemple de Loire pour les pêcheurs qui aident à refroidir les centrales nucléaires, pour l'hydroélectricité, etc. Donc on pourrait imaginer, dès lors que ces fleuves deviennent des personnes au sens juridique, ensuite qu'elles aient un compte en banque, qu'elles puissent ensuite recevoir de l'argent pour tous ces services qu'elles vont rendre aux humains. Et cet argent servira notamment à payer leur porte-parole, qui auront été désignés pour les représenter, serviront à payer leurs avocats pour intenter des contentieux contre les entreprises qui pollueraient. Elles pourront aussi décider d'affecter une part de cet argent peut-être à une autre entité naturelle qui, elle, aura moins d'argent. Et donc, avec tout ça, ça mettra en place ce que Camille appelle une économie politique terrestre au sein de laquelle les travailleurs non humains se battront et feront valoir leurs droits aux côtés des travailleurs humains, puisque l'international des rivières, ça évoque la dimension internationale, géographique, donc relier toutes ces fleuves et rivières du monde, mais aussi la dimension internationale, lutte ouvrière. Et donc c'est ça ce projet qui est porté par Camille de Toledo. Camille prend la métaphore que je trouve très intéressante des Transformers, tu sais, ces jouets comme quand il explique à ses enfants, et il dit en fait on a connu une première génération de Transformers qui est l'État. L'État, c'est une personne morale. Et donc l'État a pu accomplir des choses très bien, comme la sécurité sociale, comme les services publics, l'accès à l'éducation, l'accès au transport public, etc. Mais l'État aussi est capable des pires atrocités. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et puis aussi beaucoup d'inégalités, d'inéquités sociales, d'inégalités climatiques, voilà. Ça, c'est ce qu'il appelle les métapersonnes, la première génération de Transformers de métapersonnes. Ensuite, on a connu une deuxième génération, depuis la fin du 19e siècle, les entreprises. Entreprises au sens large, donc les sociétés, les associations, les syndicats. Ça, ce sont les deuxièmes métapersonnes. Donc les sociétés, certaines sont très vertueuses, mais certaines aussi pillent nos ressources naturelles, se rendent complices avec des états de crimes de guerre, vont déloger des peuples autochtones pour piller les réserves naturelles. Et à côté de ça, de ces premières et deuxièmes générations, eh bien, on aurait une troisième génération de métapersonnes qui seraient les entités naturelles juridiques, reconnues comme personnes au sens juridique, qui, elles, ensuite, pourraient venir contrebalancer ces pouvoirs de l'État, des entreprises, parce qu'elles, justement, elles auront été reconnues comme sujets de droit. Et donc c'est l'idée avec ce projet Vers International des Rivières. Et en fait, quand tu comprends que rétribuer justement le travail de la nature, ça servirait non pas à justifier des pollutions en disant bon je pollue donc je paye donc je peux continuer à polluer, mais quand tu mets ça de côté et que tu comprends en fait toute la logique derrière, et effectivement tu mets en place une nouvelle économie politique terrestre.
Notons-le au passage, le vivant n'a pas de prix, que le travail du vivant est inestimable.
Et c'est pour ça en fait que ce type de projet, quand on envisage les droits de la nature, on ne peut plus raisonner en silo, les juristes d'un côté, les économistes de l'autre, les philosophes, et c'est pour ça que ce sont des projets pluri, voire transdisciplinaires. Et que là, Camille justement fait appel à des économistes pour avancer avec ce projet.
On pourrait se dire que voilà, on est là dans des utopies tout à fait intéressantes et charmantes, etc. Mais à part que sur le terrain, ça se concrétise, puisque je pense notamment à lui, l'un de nos 38 députés écologistes et sociaux, Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, est allé dire des choses à l'Assemblée nationale autour du Parlement de Loire il y a peu.
Oui, alors Charles Fournier est très impliqué déjà depuis le début sur le projet Parlement de Loire. Et c'est lui, avec la complicité de Kem de Toledo et la mienne pour notre affaire à tous, qui a organisé à l'Assemblée nationale le premier colloque sur les droits de la nature, le 30 avril 2025. Alors, il faut savoir que ce colloque, il devait déjà avoir lieu en principe un an avant, en juin 2024. Mais comme il y a eu la dissolution entre-temps, du coup, ça avait été repoussé. Donc, il a finalement eu lieu le 30 avril dernier. Et c'est à l'occasion de ce colloque donc, qu'on a entendu différentes voix françaises et européennes qui œuvrent pour la reconnaissance des droits de la nature. Et c'est à cette occasion que 3 propositions de loi citoyennes ont été remises à Charles Fournier par les citoyens, le Conseil des témoins qui travaillent sur le projet vers une internationale des rivières avec Camille de Toledo. Donc un projet de loi cadre pour reconnaître les droits de la nature, un projet de loi qui reconnaîtrait le fleuve Loire comme sujet de droit et un troisième concernant l'estuaire du fleuve Loire. Pour le moment, ces projets de loi n'ont pas été présentés à l'hémicycle par Charles Fournier. Elles doivent être retravaillées. Je ne sais plus si c'est la commission des lois ou la commission développement durable qui a déjà fait ses premiers retours sur 2 projets de loi. Et donc nous, on va aider donc nous les juristes de notre affaire à tous et puis aussi les juristes du think tank, le cercle des juristes sur les droits de la nature, vont aider à retravailler ces lois pour qu'ensuite Charles puisse les porter dans l'hémicycle. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, étant donné le contexte politique. Mais en tout cas, on a bon espoir que ça progresse là, que ça reprenne courant 2026.
Depuis que cette affaire de Parlement de Loire a été lancée donc en 2019, est-ce que vous, notre affaire à tous, ou le Polo, avez été contacté par d'autres gens, d'autres parties du monde qui disent « Tiens, vous faites ça, enfin comme vous, vous avez fait pour la Nouvelle-Zélande par exemple sûrement. Tiens, bah, nous aussi, on aimerait bien que tel milieu, tel vivant soit protégé, reconnu, etc. Est-ce qu'on vous sollicite? Est-ce qu'on vous consulte ?»
Oui, justement, donc une fois que Parlement de Loire a été lancé, ça a inspiré beaucoup de collectifs, de personnes en France. Et nous, à la suite de ça, on a été contactés, c'était en 2020, me semble-t-il, on a été contactés par le collectif Tavinia Nous Vivou en Corse, qui avait entendu parler du Parlement de Loire, des droits de la nature, et qui voulait faire quelque chose pour sauver le fleuve Tavignano, le deuxième fleuve de Corse, qui est menacé par un projet de centre d'enfouissement de déchets ménagers et assimilés et de terres amiantifères dans un méandre du fleuve, sur un terrain qui est géologiquement instable. Et donc le collectif Tavinia Nous Vivou s'est battu pendant 5 ans en justice, devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel et ensuite devant le Conseil d'État, et l'autorisation d'exploiter a été confirmée en fait. Et donc ils ont perdu la lutte sur le terrain judiciaire et ils se sont dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les droits de la nature. Et donc ils ont contacté notre affaire à tous et moi à l'époque. Et c'est là où je leur ai proposé de rédiger une déclaration des droits du fleuve Tavignano. Je leur ai dit écoutez, ça va pas faire annuler la décision du Conseil d'État, c'est pas le but, mais au moins ça permettra d'en faire un outil de mobilisation à la fois citoyenne et politique pour essayer de faire reconnaître des droits à ce fleuve, à l'échelle locale bien sûr. Et donc on les a aidés à rédiger une déclaration, à la proclamer, à la porter sur la durée. Et donc cette déclaration elle a été proclamée en 2021 et depuis il y a environ 5000 personnes qui ont signé cette déclaration. Notamment des élus locaux dès le départ, c'était le but aussi que des élus locaux soient mobilisés et soutiennent cette déclaration dès sa proclamation. Et depuis aussi, on a une 30aine de communes traversées par Tavignano qui ont adopté des motions de soutien à cette déclaration, dont la ville de Bastia, et aussi, et pas des moindres, l'Assemblée de Corse, qui elle-même a adopté une motion de soutien à la déclaration donc, des droits du fleuve Tavignano. Tout ça, tu me diras, c'est bien beau, mais quelle suite? Parce que ça reste une déclaration de droit citoyenne, portée par des citoyens. Donc ça veut dire que d'un point de vue juridique, ça n'est pas contraignant. On ne peut pas forcer les gens à la respecter. Et même si les villes ont adopté des motions de soutien, bah pareil, ça ne veut pas dire qu'elle est applicable, qu'elle produit des effets juridiques. C'est pour ça que maintenant, on est en contact avec l'Assemblée de Corse pour voir comment être pragmatique en attendant qu'une loi soit votée qui reconnaisse des droits à la nature et au fleuve Tavignano, et notamment en annexant, en intégrant cette déclaration dans des documents d'urbanisme et de planification comme le PADUC, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Donc là, pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours avec l'Assemblée de Corse pour aller vers ça, et aussi un maire d'une commune qui a créé un PLU, un plan local d'urbanisme, parce qu'il n'en avait pas encore. Et donc moi, là, je suis en contact avec son urbaniste pour annexer la déclaration à ce PLU nouvellement créé, à mentionner par-ci par-là les droits du Tavignano. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était pour Tavignano, mais depuis, on accompagne une dizaine de collectifs aussi. On a accompagné plusieurs collectifs à proclamer des déclarations de droits d'autres fleuves, d'autres rivières, la Tête dans les Pyrénées-Orientales, le site des Salines en Martinique, la Durance en Provence, le fleuve côtier l'Arc dans les Bouches-du-Rhône. On est en lien aussi avec un collectif en Belgique pour la rivière Sambre, qui est transfrontalière entre la Suisse et la Belgique. On a aussi accompagné le collectif Assemblée l'Aise, qui a proclamé la déclaration du fleuve l'Aise à côté de Montpellier. Et là, actuellement, on est en lien avec un collectif d'associations pour faire la même chose sur le fleuve Adour, dans les Pyrénées. Donc ça, ce sont des projets qui accompagnent notre affaire à tous. Mais après, il y en a évidemment bien d'autres qui ne bénéficient pas forcément d'un écho médiatique, je veux dire, mais les initiatives, là, fleurissent en France et même en Europe.
Je parlais du concept d'espèce parapluie, là par exemple l'outarde canepetière qui en fait protège tout le milieu où elle vit, donc tout son biotope, etc. Protéger ou doter un fleuve ou une rivière de son entité juridique, ça veut dire tout ce qui y vit aussi, animal, végétal, humain. C'est pas juste l'eau qui coule qui est protégée, c'est ce qu'il y a tout autour et qui y vit.
Mais c'est une très bonne question. Quand on reconnaît un fleuve comme sujet de droit, se pose la question de l'échelle. Comment le délimite ? Et est-ce que c'est juste l'eau ou est-ce que c'est l'écosystème avec tout ce qui vit dedans ?
Est-ce qu'on inclut aussi les sources, les affluents ?
Alors, il y a plusieurs conceptions possibles. Soit on prend la dimension bassin versant, donc de la source jusqu'à la confluence ou l'embouchure avec tous les affluents. C'est une première possibilité, mais quand même, un bassin versant, c'est immense. Selon les fleuves dont on parle. Si par exemple on prend l'exemple de Loire, ça représente 1/5 du territoire. Si on prend l'exemple du fleuve Rhône, pareil, c'est immense, un bassin versant. Et dans ce bassin versant, il y a encore plein d'autres fleuves et de rivières qui peut-être, eux et elles aussi, auraient le droit d'avoir leur propre personnalité juridique. Parce que là, si on dit que Loire, c'est une personne au sens juridique, en prenant la dimension bassin versant, ça veut dire que tous les fleuves n'auront pas leur propre personnalité juridique.
Ça veut dire que si Loire est reconnue, c'est-à-dire que Vienne, Cher et Cisse sont impliqués dans la reconnaissance.
Ça veut dire que ce serait une seule et même personne avec Loire. Or, c'est pas possible. Et si par exemple, je prends l'exemple de l'appel du Rhône. Donc, c'est une initiative franco-suisse pour reconnaître le fleuve Rhône comme sujet de droit, pareil. Mais quand on regarde le bassin versant du fleuve Rhône, dedans il y a d'autres initiatives, notamment il y a la Durance qui est comprise dans le bassin versant du fleuve Rhône, et Durance, je l'ai mentionné, il y a la déclaration des droits de Durance qui a été proclamée, l'association SOS Durance Vivante a organisé des journées pour justement imaginer la création d'une assemblée des porte-paroles de Durance, maintenant que la déclaration a été proclamée, et on ne peut pas dire, désolé Durance, maintenant c'est comme Rhône, parce qu'il y a déjà, ça fait partie du bassin versant de Rhône, donc c'est rattaché à Rhône. Non, en fait, chaque fleuve, chaque rivière mérite sa propre personnalité juridique. Après, il faut bien sûr qu'il y ait une cohérence entre toutes ces initiatives, qu'elles communiquent. Selon moi, partir sur la dimension bassin versant maintenant n'est peut-être pas la meilleure idée, d'autant plus que ça fait intervenir une multitude d'acteurs sur un bassin versant et c'est pas possible en fait de concerter autant de monde.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aussi travailler sur la reconnaissance juridique, par exemple, des oiseaux, des castors, des loutres, etc. Ou est-ce qu'elles sont incluses dans le cours d'eau ?
Bah, on prendrait l'écosystème Loire, donc le fleuve, ce qu'il y a dans le cours d'eau, la ripisylve. Mais après, on pourrait aussi imaginer reconnaître l'espèce castor comme sujet de droit, reconnaître l'espèce oiseau, l'espèce loup. Enfin, tout est possible avec les droits de la nature. Mais après, ensuite, il faut voir comment tout ça s'intègre.
On va faire une nouvelle pause dans cette conversation. On a tout à l'heure entendu des humains qui prêtaient leur voix à l'océan. Voici d'autres voix humaines qui chantent pour l'eau.
Suis-je pas
La complainte de l'eau, autre extrait du disque L'eau qui mord, avant de reprendre notre échange avec l'avocate Marine Izquierdo. Devant l'inaction, voire la complicité des politiques avec les multinationales tueuses de vie, des vagues d'écologie, de lutte et de terrain ont émergé, avec notamment des zones à défendre. Et ces luttes environnementales se jouent aussi sur les terrains scientifiques et juridiques. Celles et ceux stupidement qualifiés d'éco-terroristes par le pouvoir sont des gens généralement non violents qui amènent à faire respecter le droit et les lois. On l'a vu par exemple à Sainte-Soline avec le rappel d'une loi de protection de l'outarde de Cannes-Petière ou sur l'autoroute A69 quand des écureuils ont filmé des mésanges qui nichaient. Ces luttes se tranchent au tribunal. Elles ont donc besoin de juristes et d'avocats.
Toutes les luttes sont nécessaires. Notre affaire à tous et moi après en tant qu'avocate, on fait le choix d'utiliser la voie légale, donc le droit, le recours aux actions en justice. Mais c'est complémentaire aussi des actions de désobéissance civile non violente. Tu citais l'exemple de la 69. Si les travaux étaient retardés, c'est pas uniquement parce qu'il y a des espèces protégées et qu'on a découvert des mésanges sur la ZAD de la Crémarbre. C'est aussi parce qu'on a des personnes qui ont grimpé dans les arbres, qui se sont attachées aux engins de chantier et qui ont permis de retarder les travaux. Tout ça est complémentaire. Et bien souvent, ces personnes-là, quand elles en viennent à faire des actions de désobéissance civile non violente, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles n'ont pas été écoutées. Sur la 69, quand même, il y a des représentants du GNSA, du Groupe National de Surveillance des Arbres et du collectif La Voie Libre qui avaient rencontré des membres du gouvernement, le ministre des Transports, qui avaient demandé un moratoire sur les travaux le temps que le tribunal administratif se prononce sur l'affaire. Et en fait, ils n'ont pas été écoutés. À chaque fois, ça n'aboutissait à rien. Et c'est pour ça ensuite qu'on a eu les grèves de la faim, les grèves de la soif, les actions des obéissances civiles, que tout a commencé en fait.
Est-ce que ça fait partie des missions que vous vous êtes fixées à notre affaire à tous, de aussi défendre des militants, militantes ?
On ne les défend pas en tant qu'association, on peut apporter notre soutien, notamment en termes de communication. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas la voie qu'on a choisie. Nous, c'est vraiment le recours au droit, au contentieux, puisque avec les actions en justice, on peut renforcer le droit ou alors le faire évoluer à l'occasion d'une nouvelle jurisprudence, d'une nouvelle décision de justice. Et c'est ça l'intérêt, parce que ces décisions de justice, ça contribue à l'élaboration du droit positif, du droit qui est en vigueur donc, dans un pays. Et ce droit positif, bah, il évolue en même temps que la société évolue. Il répond aux attentes sociétales.
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce cercle des juristes concernant les droits de la nature ?
Le cercle des juristes sur les droits de la nature, oui, c'est un think tank que j'ai initié avec d'autres universitaires, puisqu'on est parti d'un constat, c'était de dire que tous les juristes, au sens large, qui travaillent et s'intéressent aux droits de la nature, travaillent plutôt de manière isolée, c'est-à-dire les juristes d'ONG d'un côté, les chercheurs de leur côté, les universitaires aussi de leur côté, les praticiens comme les avocats, les notaires. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir un espace de réflexion collective dédié, de mettre tout ce monde-là à une même table pour réfléchir ensemble aux modalités concrètes d'application des droits à la nature. Et c'est comme ça qu'avec Alexandre Zabalza, donc, qui est professeur de droit à Bordeaux, on a contacté toutes les personnes qu'on connaît, qu'on a rencontrées au fil des années, des colloques, des conférences, des tables rondes, et qu'on leur a proposé d'intégrer un cercle de réflexion, donc un think tank. Et donc en 24 heures, bah, toutes les personnes qu'on avait contactées par mail nous ont répondu positivement. Et on a fait cette annonce à l'Assemblée nationale lors du colloque organisé par Charles Fournier. Et donc là, actuellement, on est une trentaine. Praticiens, c'est-à-dire avocats, un notaire, juristes d'ONG, beaucoup d'universitaires et des chercheurs, notamment chercheurs au CNRS. Et on fait des ateliers de réflexion à peu près tous les 3 mois. Là, le premier qu'on a fait, c'était pour réfléchir à la question de savoir si, quand on reconnaît une personnalité juridique à des entités naturelles, on leur reconnaît des droits, mais aussi des obligations. Puisque la définition de personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits, mais aussi de devoirs ou d'obligations. Donc on a réfléchi à tout ça, et voilà.
Je me sens un peu choqué, parce que je me dis, mais bon, si je pense à Loire, par exemple, ses obligations, ça fait des millénaires qu'elle est remplie déjà.
C'est-à-dire ?
Bah, elle fait déjà son travail, elle le faisait déjà avant même qu'on soit là. Loire répond à ses obligations depuis toujours, non ?
Alors, c'est pas tant ses obligations de voir, mais par exemple, si Loire déborde, qu'elle cause des inondations, qu'il y a des morts, qu'il y a des dommages aux biens, est-ce qu'on va aller rechercher sa responsabilité ? parce qu'elle est débordée. Tu vois, c'est plus dans cette optique-là.
Comment Loire n'a pas su s'adapter aux gens qui vont vivre et construire des pavillons en zone inondable, alors que Sapiens, depuis toujours avec Loire, vit avec ses crues, voire même parfois les attend, parce qu'elle apporte des alluvions. Enfin, quand tu te balades en Touraine, tu vois bien que les chemins sont creux pour faire passer des barques, que s'il y a des anneaux derrière les maisons, c'est pour accrocher les dites barques, que s'il y a trois petites marches et des gardes-mangers un peu en hauteur, c'est parce que les gens ont appris à vivre avec Loire. Bon, non, on peut accuser Loire de ne pas avoir su s'adapter au monde moderne.
Bah, c'est pour ça que certains disent non, ça ne fait pas sens de reconnaître des devoirs ou des obligations aux écosystèmes, parce que le but des droits de la nature, c'est avant tout de mieux les protéger, donc leur reconnaître des droits qui pourront faire valoir en justice. D'autres vont dire oui, mais la définition de personnalité juridique, bah, c'est les droits et les obligations, donc si on enlève les obligations, c'est pas une personnalité juridique. Ou d'autres vont encore dire, bah, entre les deux, on peut reconnaître certaines obligations. Je reprends l'exemple du compte en banque. Si Loire a un compte en banque, elle a un numéro d'identification fiscale, comme c'est le cas pour la lagune Marménor en Espagne, bah peut-être que ses obligations, ce sera de payer des frais bancaires ou des impôts si elle en a, ou de payer ses porte-paroles, mais pas plus. Et qu'effectivement, on ne pourra pas aller chercher sa responsabilité en cas de débordement, alors que tout ça, c'est dû au phénomène de dérèglement climatique qui sont d'origine anthropique. Et c'est un peu en fait le cas de force majeure, où pareil, une personne qui se noie dans Loire, si c'est de la faute de la victime, ben, on ne va pas aller rechercher la responsabilité de Loire. Donc, mais il y a quand même tout ça à penser, on ne peut pas l'occulter, parce que les droits à la nature, je l'ai dit, il y a aussi un pendant quand même juridique, et on est obligé de penser aux conséquences, de voir comment on intègre ça dans le cadre juridique français ou européen. Donc on est obligé de se poser ces questions, et donc c'est le but de ce think tank, de réfléchir à tout ça collectivement et de mélanger les approches. Je l'ai dit, il y en a qui estiment que les droits à la nature, il faut reconnaître une personnalité juridique, d'autres qui proposent une autre voie en disant juste des droits mais pas de personnalité juridique. Et donc c'est ça aussi qui fait la richesse du think tank, c'est de mélanger toutes ces approches et de réfléchir collectivement.
Comme on le disait tout à l'heure au sujet d'une lutte, voilà, il faut faire feu de tout bois et faire avec toutes celles et ceux qui sont là.
Bah ça, c'est notamment vrai pour multiplier l'outillage juridique, donc mobiliser à la fois tous les outils du droit de l'environnement qui existent, mais pas que. Aller aussi avec les droits de la nature pour avoir un moyen supplémentaire de défendre la nature en justice. Maintenant, il faut être conscient que si le droit n'est pas appliqué, que ce soit le droit de l'environnement, les droits humains, les droits de la nature, ben on n'ira pas loin. Et ça, c'est un peu les limites du droit. Même en Équateur, en Colombie, là où les droits de la nature ont été reconnus, ils ne sont pas toujours appliqués. Est-ce à dire pour autant que les droits de la nature ne servent à rien ? Non, je ne crois pas. Sinon, on dirait la même chose du droit de l'environnement. Ben, il n'est pas appliqué, donc il ne sert à rien. Non. Il faut de tout, faire feu de tout bois, comme tu dis.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec l'avocate Marine Izquierdo qu'on remercie. Pour approfondir, allez explorer le site très fourni de Notre Affaire à tous. Il y a aussi un site dédié au Parlement de Loire. Et à voir également le site de l'expédition Bateau Labo qu'on remercie aussi pour avoir permis cette émission que vous pouvez télécharger via Podimix et lavoixoff.com. On se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre, préférée, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut !
Force est de constater, mon cher Alec, que nos chers compatriotes sont consternés par tant de controverses et de contradictions conçues comme autant de coups contractés par la Constitution contre leur consentement et leur concertation.
Elle est pas mal, celle-là. Ouais, force est de le constater, mesdames, messieurs. En tout cas, après cette belle phrase, moi j'aimerais vous dire bon courage, hein. Gardez la courge, gardez la courgette, gardez le concombre. Chers congénères et chers confrères, on se dit à bientôt.
La papa papa pa, a convoqué à Copenhague pour couper court au CO. Un cortège de comptables, on voit en hélico et de colloques en conférence.
Vous écoutez HTR 99.1.
As soon as thoughts start rolling in the dew, I still love him. Come to play. Overthinking what I would, did I even want it more?
Avec des si on coupe des doigts, j'ai déjà dit, j'ai pas précisé les doigts de qui. D'abord ceux qui ont pas pris.
Vous écoutez HTR.